Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour et bienvenue avec Stéphane et Patrice, l'émission sur l'entreprise de management le commercial sur RLP, c'est RLP Business numéro 7. Alors Patrice, bonjour, tu vas bien ?
Très bien, très très bien, j'espère que tous nos auditeurs vont aussi bien que nous, c'est le printemps, on a des belles journées, donc tout est fantastique.
Oui, le printemps arrive avec tous les bons signaux qui vont avec la bonne humeur. Alors aujourd'hui nous recevons Patrice qu'on n'a pas encore eu l'occasion de vous présenter, donc c'est vraiment l'opportunité de le faire, et nous parlerons aujourd'hui du métier de consultant. Qu'est-ce qu'un commercial? Qu'est-ce qui a évolué dans le temps? Ce sera effectivement intéressant, il nous expliquera son métier, son parcours et ses particularités, mais c'est tout de suite après les actualités.
Les actualités.
Alors, sur 33 000 entreprises en Dordogne, on compte actuellement 21 000 intentions d'embauche pour l'année 2023. Ça veut dire en gros 1500 personnes dans l'hôtellerie et la restauration. Et on recherche également 2500 personnes qui seraient agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs. Les secteurs les plus tendus sont la santé et l'action sociale, un peu le bâtiment, je suppose, ce qui rejoint un petit peu le niveau national. Quand on lit par contre ces chiffres, on se demande où sont les cadres, où sont les ingénieurs et où sont effectivement, en cette période de réforme de retraite, où sont les seniors, parce que l'hôtellerie, la restauration, l'agriculture, le bâtiment et autres, ce ne sont pas des métiers que l'on fait jusqu'à 64 ans. Voilà. Dans ce contexte, la France va relocaliser sa production de poudre pour obus. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la France va relocaliser à Bergerac la production de poudre. Bon, c'est ce qu'on appelle, je crois, une situation explosive.
L'invité de la semaine.
Alors aujourd'hui, Patrice Wallet, Patrice de Grassaki, Patrice de Wallet Consulting. Patrice, bonjour, ça va ?
Bonjour.
Bonjour, bonjour, rebonjour, rebonjour. Est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs qui t'entendent effectivement chaque semaine, mais qui ne te connaissent pas encore forcément très bien, nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours, comment devient-on Patrice Wallet aujourd'hui ?
Il est né dans le nord de la France, il est né à côté de d'Amiens, à Abbeville, et puis il a descendu la France en suivant papa et maman, tout simplement. Hein. Et puis il est arrivé à Périgueux, il avait 17 ans, il s'est juré bien évidemment d'en partir le plus rapidement possible, parce que Périgueux, petite ville, et parce que quand on est un jeune homme, on espère voir un peu plus grand. J'en suis parti, je suis vite revenu, j'ai fait ma vie en Dordogne, j'en suis vraiment ravi. Alors mon parcours professionnel, il est axé essentiellement sur le commerce. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelques petites études jusqu'en maîtrise, puis après j'ai commencé à la base, hein, c'est-à-dire commercial.
Alors tu étais où ? Tu étais à Amiens ?
Non, j'étais à Périgueux, j'étais déjà à Périgueux.
Donc tu as fait une maîtrise de quoi ?
De commerce.
Une maîtrise de commerce.
De commerce et de gestion d'entreprise sur Pau.
Ah, d'accord.
Sur Pau. Et puis j'ai fait mon service militaire, puisqu'à l'époque c'était obligatoire. On pouvait pas y couper. Et puis en revenant du service militaire, j'ai cherché du travail. Et puis à l'époque, on me disait, c'est bien, hein, vous avez une maîtrise, mais il n'en est pas moins qu'il faut commencer par le début. Et pour gérer une entreprise, il faut apprendre à vendre, entre autres. Et donc on va s'y atteler, hein, et puis on va apprendre le métier aussi sur le tas, comme on dit. Et donc j'ai commencé commercial dans la bureautique, puisque j'étais embauché dans une entreprise qui vendait des photocopieurs et de l'informatique. Et puis, au fur et à mesure des années, j'étais vendeur géographique, ce qu'on appelle géographique, c'est-à-dire sur un secteur déterminé en Dordogne, pour visiter les PME, les TPE, puis après vendeur grand compte sur des grandes entreprises, concernant des grandes entreprises, puis après chef d'équipe, après chef d'agence, puis après directeur régional, puis après directeur national, puis après j'ai racheté des entreprises de bureautique et je les ai revendues, et puis depuis ces 5 dernières années, je suis consultant. C'est-à-dire que je mets à disposition un savoir-faire qui est le mien, hein, qui a quelques années hein, maintenant d'expérience, et j'aide les entreprises à se développer.
Je crois que tu es un ancien de chez Xerox.
Oui, Xerox et Canon. J'ai fait mes humanités dans ces deux entreprises. Dans ces deux grandes...
qui était un modèle. Je crois qu'à Bordeaux, il y avait une équipe assez formidable. Et on parlait beaucoup de l'équipe Xerox, de la magnifique école de vente Xerox. Et toi, tu es donc issu de ce milieu.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas fait le maximum de ma carrière dans cette belle entreprise parce que ça correspondait pas tout à fait à mes valeurs, tout simplement, parce que on est dans du pur business américain, hein, Xerox, hein, donc c'est très très bien, et c'est une très très bonne école, mais après, si on n'adhère pas tout à fait à leurs valeurs, ben, il faut faire autrement, donc j'ai fait mon apprentissage chez eux, puis après chez Canon, et puis après chez un gros distributeur Canon, et jusqu'à le plus gros distributeur Canon international, qui s'appelait Icon Office Solutions. Et après, j'ai racheté des fonds de commerce à cette entreprise en Dordogne et en Charente. Et je suis donc devenu chef d'entreprise pendant une dizaine d'années sur ces structures-là.
D'accord. Donc, directeur de département, directeur national, responsable de structure. Tu as également une expérience d'encadrement.
Bien sûr.
Tu es monté à combien d'effectifs en encadrement ?
Jusqu'à 100, 130.
D'accord, donc tu sais ce que c'est que manager 130 personnes.
Oui, un petit peu, oui, quand même.
D'accord, donc tu sais ce que c'est que déléguer, forcément.
Obligatoirement.
Est-ce que c'est important pour un manager de savoir déléguer ?
Oui, c'est essentiel. Il faut déléguer et il faut fédérer. Il faut être les deux. C'est un peu comme un papa, hein, pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire. Il faut savoir déléguer, bien évidemment, il faut savoir fédérer, il faut que tous les collaborateurs prennent plaisir à faire leur métier, prennent plaisir à apprendre à mieux faire leur métier, et puis de tous avancer dans le même sens. C'est ça, hein, le management.
D'accord. Alors, le métier de consultant, donc en fait, on va résumer une carrière, un bac plus 4 en école de commerce. On commence par aller vendre, on commence par encadrer ceux qui vendent, on continue en achetant les outils de vente, carrément les magasins, on encadre, et puis après, on se met consultant pour aller expliquer aux autres. C'est là qu'apparaît Grâce à qui, ou il s'est passé quelque chose entre les deux ?
Non, ça a été en réalité une rencontre. Quand j'ai commencé mon métier consultant, dans le métier de consultant, il y a aussi de la formation. C'est un des éléments du métier de consultant, ce n'est pas le seul. Mais pour faire de la formation, il faut avoir des certifications, chose que j'ai passée à Excelia sur La Rochelle. Et je me suis retrouvé avec des anciens chefs d'entreprise qui ont eu la même démarche que moi de vouloir faire du consulting. Et bien évidemment, même tranche d'âge, à peu près, même expérience de la vie professionnelle. Donc ça a créé du lien, ça a créé de l'amitié. Et on s'est dit, après cette formation, on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas retourner chacun chez soi. Et pourquoi on ne se structurerait pas et pourquoi on n'apporterait pas un service élargi aux entreprises, en tout cas plus élargi que notre propre expertise. Donc ça a été une évidence, on a monté cette structure qu'on a baptisée grâce pas uniquement à nous, c'est grâce à nous tous, c'est-à-dire nous et le client.
Oui, il y a un petit jeu de mots avec Aquitaine aussi,
oui,
je crois.
Oui, un petit jeu de mots avec Aquitaine, bien sûr. Et puis aussi pour faire comprendre qu'on sait pas faire grand-chose tout seul, donc il faut être plusieurs pour avancer et réussir les objectifs de l'entreprise. Donc, moi, ma spécialité, c'est le commerce, c'est ce que je sais le mieux faire. D'autres, ça va être la gestion, d'autres, ça va être les achats, d'autres, ça va être la communication, d'autres, ça va être le digital, d'autres personnes, ça va être le juridique. Donc, on a réuni à aujourd'hui une quinzaine de compétences métiers utiles, nécessaires et indispensables pour la vie des entreprises. C'est tous des cadres seniors ou des anciens chefs d'entreprise. Et on se met à la disposition des entreprises à la carte, au besoin. Hein, comme on est surtout en Aquitaine sur un tissu de TPE-PME, ce ne sont pas des structures qui puissent avoir les moyens financiers de se payer un codir d'une dizaine de compétences. Donc nous, on intervient quand il y a besoin. Et donc, on amène notre savoir-faire, notre conseil, notre expertise aux chefs d'entreprise actuels.
Donc, grâce à qui, en fait, c'est toi ou tu fais partie de grâce à qui ?
Alors, je fais partie de grâce à qui ? Alors, on a voulu monter ça sous forme associative. Pour que notre finalité, ce n'est pas de nous enrichir. Notre finalité, c'est vraiment d'apporter de la prestation. Bien sûr, on se fait rémunérer, hein, mais chacun facture sa prestation, mais on peut aussi facturer notre prestation à travers grâce à qui, quand on intervient à plusieurs chez le même client en même temps.
Je veux dire, qui a initié l'idée de grâce à qui a créé cette chose-là ?
Ce sont quatre chefs d'entreprise dont je fais partie.
D'accord. Qui fait partie des quatre membres fondateurs, en
oui,
fait.
Oui, tout D'accord. à fait, tout okay. à fait, tout à fait.
Donc, qui sont les trois autres ?
Trois autres, c'est trois chefs d'entreprise qui, un qui est aussi à peu près la même carrière que moi dans le même domaine d'ailleurs, dans la bureautique, mais qui l'a fait dans d'autres départements de France, une autre personne qui est plus axée dans les ressources humaines et une autre qui était purement informaticien.
Sébastien ?
Non, pas Sébastien.
Ok, très bien. Alors, le métier de consultant, est-ce que tu pourrais, moi je sais parce que j'ai travaillé comme consultant, en tant qu'informaticien indépendant, je vendais des prestations à la journée avec des SS2I en tant qu'intermédiaire ou pas, donc je comprends ce que c'est que le métier de consultant, mais la plupart des gens ne comprennent pas. C'est pas forcément notre culture, on a une culture en France, beaucoup de salariat, de plans de carrière et autres, et les gens ne se représentent pas très très bien. Qu'est-ce que c'est que ce métier de consultant ? Qu'est-ce qu'un consultant ?
On va prendre un exemple précis pour essayer d'être le plus précis possible pour nos auditeurs. Consultant, c'est une prestation, c'est un savoir-faire dont on a besoin à un moment précis. On a besoin de quelqu'un à un moment précis. Alors, je vais vous prendre mon exemple que je vis moi tous les jours. C'est une entreprise qui n'a pas les résultats qu'elle attend au niveau de son commerce ou qui a des projets de croissance importants et qui ne sait pas trop comment appréhender la chose. Parce qu'une fois de plus, personne ne naît avec toutes les réponses et il y a une multitude d'obstacles à chaque objectif que l'on peut avoir dans une entreprise. Et ces obstacles-là, on ne sait pas toujours les surmonter tout seul. Donc on a besoin de compétences externes, on a besoin de gens qui savent faire ces choses-là, mais on n'en a besoin que ponctuellement. Donc si je prends mon exemple, moi, que je vis fréquemment, enfin tous les jours, c'est une entreprise, elle a besoin de développer son business. Ça veut dire quoi, développer son business ? Ça veut dire qu'elle ne fait pas assez de business avec la structure qu'elle a, donc ça veut dire que sa structure n'est pas assez compétitive, ou est-ce qu'elle l'est compétitive, mais elle a besoin de passer une vitesse supplémentaire, elle a besoin d'embaucher plus de commerciaux, elle a peut-être besoin d'ouvrir plus de magasins, ou elle a besoin peut-être d'ouvrir plus des succursales sur la France, ou peut-être de racheter des concurrents pour grossir et se développer. Donc, dans ce cas-là, j'ai des savoir-faire dans ces domaines-là, puisque je les ai vécus, moi, à titre personnel, en tant que soit directeur, manager ou chef d'entreprise. Donc, je vais proposer mes services et les accompagner ponctuellement dans cette démarche. Alors, je peux les accompagner purement en théorie, c'est-à-dire en conseil, mais je peux aussi les accompagner en opérationnel sur le terrain et les aider pendant une période, un mois, deux mois, six mois, un an, à faire les choses.
Alors, c'est une rémunération au résultat ou c'est une rémunération aux frais fixes ? Comment vous fonctionnez ?
Il y a les deux, tout est possible.
Tout est possible.
Tout est possible, tout dépend. La plupart du temps, quand il y a un long accompagnement, il y a une rémunération au résultat, bien évidemment. Si c'est sur une très courte période, il est toujours difficile de mesurer les résultats sur une courte période. Et là, c'est, la plupart du temps, c'est forfaitaire. D'accord. Mais nos accompagnements, les miens et ceux de mes collègues, peuvent être aussi pris en charge par certaines OPCO. Les OPCO sont des organismes collecteurs de fonds à la formation et à l'accompagnement des entreprises. Toutes les entreprises y cotisent, elles n'ont pas le choix, c'est une obligation. Et nos accompagnements peuvent être pris en charge ou une partie en charge. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi ne pas avoir peur des coûts que cela peut engendrer, il faut déjà s'intéresser surtout aux besoins. Et une fois qu'on s'intéresse aux besoins de l'entreprise, après, on va chercher les financements possibles.
Parce que vous êtes aussi un centre de formation ?
Oui, tout à fait. On a monté un centre de formation agréé Calliope pour nous permettre justement d'intervenir via ces dispositifs.
Donc Calliope, centre de formation, consultant, ça fait une palette quand même relativement grande. Toi, tu donnes des formations aussi ?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que tu donnes comme formation ?
Formation sur le management, formation sur tout ce qui est stratégie d'entreprise, parce que ça s'apprend, une fois de plus. Les stratégies, il y a plusieurs outils, il y a des écoles qui nous permettent de travailler dans différents cadres, dans différentes projections. Et tout ça, ça s'apprend.
Oui, j'ai un ami qui est enseignant à HEC, qui est le fondateur de la Rocket School, qui me disait qu'en fait, en école commerciale, à un certain niveau, on ne forme pas des vendeurs en porte-à-porte, hein, on forme des stratèges.
Bien sûr. La vente, vous savez, il faut pas considérer le commerce uniquement à un niveau de commercial. Ou alors, tout le monde fait du commercial. Un chef d'entreprise, surtout d'une PME, quand vous regardez un chef d'entreprise, à votre avis, où est-ce qu'il est un chef d'entreprise tout le long de la journée, essentiellement ? Mais il fait du commerce. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas que ça à faire.
Ou de l'administratif, mais bon, c'est un autre problème.
C'est vrai qu'on est dans un pays qui est assez lourd en termes de charges administratives. Mais la plupart du temps, il va faire ça sur ses heures en off, hein, mais en heure ouvrable. On ne fait pas d'administratif. En heure ouvrable, on va voir des clients, on discute, on papote on va chercher des contrats. Donc, un chef d'entreprise, c'est certainement le premier représentant, c'est le premier commercial de l'entreprise. Alors après, il peut avoir bien sûr des collaborateurs commerciaux pour d'autres cibles et puis bien sûr pour avoir un pouvoir de frappe plus important. Mais le chef d'entreprise, la plupart du temps, a ce rôle, oui.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je me souviens de l'époque quand j'étais à Clichy, j'avais 4 salariés. Je passais entre une demi-journée et une journée par semaine à faire l'administratif.
Ce qui est très lourd.
Ce qui était extrêmement lourd. Et au départ, moi, je viens d'une formation technique. Donc, je ne connaissais rien au commercial. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je connais extrêmement peu au commercial. Je suis devenu avec le temps ce qu'on appelle un technico-commercial. Parce que je viens d'une formation de maths et d'ingénieur. Et quand j'ai voulu me développer, j'ai dû apprendre tout ça. Je me suis retrouvé avec des ingénieurs et des graphistes. Et de temps en temps, je faisais venir un commercial. Et là, je voyais vraiment, c'était le choc des cultures. Le choc des cultures énorme, c'était des gens extrêmement différents. Nous, on parlait geek, on parlait mots. Lui, il comprenait absolument rien. En caricaturant, lui, il parlait nana et voiture. On avait beaucoup, beaucoup de mal à bosser ensemble. D'où vient, en fait, cette chose qui fait que, qui n'est pas forcément vraie dans les pays anglo-saxons, mais qui fait qu'en France, on a tellement segmenté les compétences et les profils qu'on a du mal à être à la fois technicien et commercial. Et ça, je crois que ça marche dans les deux sens.
Bien sûr. Et tu as eu raison d'aborder ce sujet qui est super important. Déjà en France, alors me demande pas pourquoi, je n'ai pas l'explication, mais on a une très forte majorité de chefs d'entreprise qui ne viennent pas du commerce, qui viennent du technique. La plupart du temps, les chefs d'entreprise sont des techniciens à la base. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement le métier, voilà, le métier dans lequel ils sont. D'accord ? Donc, ce sont des gens qui n'ont pas ce qu'on appelle la connaissance, la culture, l'enseignement commercial. Donc, ces gens-là vont être très forts en production, ils vont être très forts en technique. Et la plupart du temps, ils ne vont pas être forts en administratif, mais ça, c'est commun à tout le monde. Ils ne vont pas être forts non plus en gestion, ce n'est pas leur métier. Donc, il faut qu'ils soient...
Et non, parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école.
Et oui. Toute la problématique, elle est là. C'est-à-dire que vous faites une école technique, on ne vous apprendra que du technique. On ne vous apprendra jamais qu'une entreprise, il y a de la gestion. Et si on ne sait pas gérer une entreprise, on a beau être un super technicien, on va au plantage. Hein, ça, c'est clair et net. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Et aujourd'hui, ça tend peut-être à s'améliorer, peut-être un peu, mais on n'y est pas encore. Donc, à aujourd'hui, un chef d'entreprise, il a l'obligation, c'est pas un choix, d'être accompagné avec des compétences complémentaire à la sienne. Alors bien sûr, plus il va prendre de la bouteille, plus il va aller acquérir ses compétences qu'il n'avait pas au démarrage, mais il n'en est pas moins que ça ne sera jamais un pur gestionnaire, un pur financier, un pur commercial, si à la base, il était un pur technicien. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut savoir s'encadrer. Maintenant, on n'a pas non plus à rougir, hein, parce que les Américains avec lesquels j'ai travaillé très longuement, ils ont peut-être des cultures plus larges, moins précises, moins perfectionnistes, en effet, mais il n'en est pas moins que arriver à une certaine taille d'entreprise, on ne peut pas tout faire. Et puis on ne peut pas être un spécialiste de la finance et brasser des millions d'euros. Ça, c'est le métier d'un directeur financier. D'accord, c'est pas le métier d'un chef d'entreprise. Un bon chef d'entreprise, c'est pas compliqué.
C'est un chef d'orchestre.
Oui, c'est un chef d'orchestre. C'est le capitaine de navire. C'est celui qui est derrière la barre, qui regarde l'horizon et qui se dit « Putain, on va se prendre un orage dans la gueule là, dans pas longtemps. J'en suis pas sûr, mais je le sens. Allez, hop, je prends la barre et je fais un petit détour. Je préfère, c'est moi qui prends la décision. » C'est ça, un chef d'entreprise. En revanche, il a des professionnels à la voile, il a des professionnels partout, dans tous les points stratégiques de la navigation. C'est ça, un chef d'entreprise. C'est un capitaine.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est aussi cette différence entre la France et les pays anglo-saxons. Si je te dis Robert Kiyosaki, tu connais ?
Non, très peu.
Papa riche, papa pauvre.
Oui, si, ça me parle. Ça me parle un petit peu, oui.
C'est la culture de commercial, en fait, parce qu'on ne la connaît pas forcément, elle n'est pas enseignée. Qu'est-ce que c'est que la culture du métier de commercial? Qu'est-ce qui définit cet environnement? Comment vous grandissez? Qu'est-ce qu'on vous apprend? C'est le savoir-être? C'est domestiquer l'argent? C'est comprendre la psychologie humaine? Qu'est-ce que c'est la culture commerciale?
Culture commerciale, tu l'as dit, c'est connaître l'homme. C'est apprendre à connaître l'humain. Dans le commerce, c'est comme dans la finance, c'est comme dans plein de choses. Rien n'existe s'il n'y a pas l'homme. Tout est autour de l'homme. Donc, tu peux vendre des produits qui se chiffrent en milliards, par exemple. Je vais vous prendre un exemple. Je suis vendeur de fusées.
Allez, un petit peu d'Elon Musk.
Voilà, je vais vendre des fusées ou je vais vendre des tanks, des navires, des trucs qui se chiffrent en milliards. Bon, il y a tout un travail préparatoire technique qui peut durer des années et des années hein, pour savoir comment on va construire la fusée. Puis c'est surtout prouver au client potentiel que la fusée elle va bien décoller et puis qu'elle ne va pas se cratcher quelques secondes plus tard. Donc ça, c'est la production. Mais la vente, concrètement, c'est-à-dire la relation entre deux bonhommes, entre deux femmes, entre un homme ou une femme, qui vont se dire « Banco, c'est bon, je te fais confiance, je l'achète ta fusée ». C'est de la relation humaine. C'est de la pure relation humaine. Ça va être des chefs d'État. Ça va se faire au niveau des chefs d'État ou des chefs de cabinet. C'est ça, le commerce. C'est-à-dire que même si on vend des choses hyper techniques, moi j'ai vendu des systèmes informatiques, je ne savais absolument pas comment cela fonctionnait, mais ça, c'était pas mon rôle. Le rôle, ça c'était les équipes techniques et d'ingénieurs. Moi, j'étais là pour répondre à un besoin. On n'achète pas un outil, on achète un besoin. Un jardinier, quand il achète une pelle, il n'achète pas une pelle. Il s'en fout de la pelle. Il achète un outil qui lui permet de faire un trou. Et ça s'appelle une pelle. Mmh. Son besoin, à la base, c'est de faire un trou. Ouais. C'est pas d'acheter une pelle. Ouais. Une entreprise, quand elle dépense des sommes importantes dans un système informatique, elle n'achète pas des PC, des câbles. Elle s'en fout des PC, des câbles. Elle a un besoin. Elle a un besoin de gérer l'entreprise avec des datas, des données, avec un besoin de facturer, avec un besoin de connaître ses stocks parfaitement en temps réel. Donc, ces systèmes, c'est ça son besoin. Ce n'est pas l'informatique. L'informatique est un outil.
Donc, cette difficulté qu'on peut avoir, nous, ici, à parler d'argent et à considérer le côté commercial, non pas comme quelque chose de sale, mais d'utile, c'est culturel, ça vient d'où ?
Pour te répondre précisément, je ne sais pas. On a eu, En France, on a toujours un problème avec le pognon. Quoi. On n'aime pas parler pognon. Quoi. On n'aime pas. Je veux dire que même un commerçant, moi je me souviens très bien de mes grands-parents étaient dans la SAP.
On va faire une parenthèse, on a fait plusieurs émissions ici, on n'a encore pas réussi à avoir un seul chiffre, hein, quasiment.
Ah mais oui, mais c'est clair. Mais alors, en plus, c'est très rigolo, parce que quand vous parlez pognon, même avec un chef d'entreprise, il y a toujours une... On n'ose pas trop dire les chiffres, alors que les chiffres, on les a, on fait société.com, et puis on prend sa carte bleue, et puis je télécharge les résultats de l'entreprise que j'ai devant moi. Et puis je vais même télécharger les résultats très très précis, voire même précis, plus que précis. Beaucoup plus précis d'ailleurs que le chef d'entreprise peut imaginer. Mais donc tout s'achète, donc c'est pas... Donc pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi être discret alors que c'est dans le, j'ai envie de dire, quelque part, presque dans le domaine public. Mais on a cette réticence-là. Moi, je me souviens très bien, je te parlais de mes grands-parents qui étaient dans la sape, dans la fringue. À l'époque, les commerçants ne mettaient jamais les prix sur les articles. Jamais. Le client rentrait dans le magasin, il n'y avait jamais un prix. Et il fallait que le client arrive à un moment où on commence à parler d'argent. Mais c'était difficile, douloureux de dire que ma chemise, elle coûte ce prix-là. C'est parce qu'on a toujours été élevé là-dessus. À l'inverse, les Américains, eux, ils parlent du pognon, mais naturellement, voilà, tout a une valeur. Donc, pourquoi cacher sa valeur ? Donc, c'est une autre culture. Et comme on dit, une culture, ça suit des générations et des générations. Hein, ça ne peut pas se transformer en un coup de cuillère à peau.
D'accord.
Alors si, de temps en temps, on peut avoir un gouvernement qui passe et qui, en trois coups de cuillère à peau, remet en cause beaucoup d'acquis sociaux ou d'acquis... c'est rare de changer quand même la culture et, j'ai envie de dire, la particularité de l'individu.
Alors, est-ce que le métier de commercial, est-ce que l'environnement commercial français a évolué dans le temps ? Est-ce que être commercial aujourd'hui, c'est la même chose que lorsque tu as commencé ?
Je vais faire une réponse à double facette. Dans l'absolu, oui, c'est toujours le même métier, parce que le métier de commercial, c'est de rentrer en communication avec un individu, avec un acheteur, et de trouver un terrain d'accord pour conclure une affaire. Donc, pour conclure une affaire, il faut que les deux soient compatibles. C'est-à-dire que les deux trouvent un intérêt. Le client, il a des besoins, sans quoi s'il n'a pas de besoins, on discute de rien. Et le vendeur, il apporte des solutions aux besoins. Alors après, c'est une solution 100% solution, c'est une solution qui règle trois quarts, à moitié le problème, mais on en discute, et puis après, on tombe d'accord ou on ne tombe pas d'accord. Mais c'est exactement la même relation qu'on peut l'avoir même dans la vie privée, quoi. Dans la vie privée, on discute avec des gens, on crée des liens plus ou moins forts avec certaines personnes. Quelque part, on vend. Quand tu m'expliques quelque chose, Stéphane, et que tu y mets tes tripes, que tu y mets ta conviction, tu es en train d'essayer de me vendre quelque chose. Alors, il n'y aura pas d'argent entre nous, mais tu es en train d'essayer de me vendre ton point de vue. Bon, bah, c'est ça.
Une transmission d'informations avec un impact.
Oui, tout à fait. Donc, quelque part, le métier de commerce d'hier ne change pas dans la finalité, c'est-à-dire que deux individus doivent tomber d'accord. Après, c'est dans les us et coutumes, dans les méthodes de discussion, dans les méthodes de proposition, où là, énormément, ça bouge très très vite. Moi, j'ai connu l'époque où on s'écrivait, on faisait des belles lettres, on faisait des belles propositions, on se rencontrait au minimum 3-4 fois, mais c'était vraiment un minimum, parce que fallait qu'on soit sûr que le client ait vraiment confiance en son fournisseur. Bon, à aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus direct. On va s'envoyer des mails, on va se mettre des liens qui amènent sur des sites internet, on va rentrer dans la technique, on passe de la technique à la finance, on passe de la finance à autre chose. C'est beaucoup plus réactif, beaucoup plus dynamique, mais bon, ce ne sont que des outils qui changent.
D'accord. Est-ce que tu as des projets pour les périodes à venir ? Comment est-ce que tu sens le marché ? Comment est-ce que tu sens l'activité ? Qu'est-ce qui t'attend, en fait, ces prochains mois ?
Alors ces prochains mois, on est sur un projet d'évolution, comme toute entreprise. Là, je parle de Grassaki, hein, qui est un cabinet d'affaires, un cabinet qui regroupe des consultants. Et là, on est sur des projets sur du national. On va devoir se développer au niveau du national parce que la demande est là, l'attente est là. Ce que nous avons fait, nous, juste depuis 4 ans sur l'Aquitaine, il faut qu'on le développe sur le national et on est parti dans ce sens.
C'était Patrice Wallet, Grassaki, Wallet Consulting. Merci Pat, à la semaine prochaine.
Merci à vous.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exhibe des trésors satinés. Doré à souhait.
RLP.
Radio Libre en Périgord.